Donc, chapitre 42, les frères et leur conscience, ils sont arrivés en Égypte pour acheter de la nourriture. Et Joseph les a reconnus, eux ne l'ont pas reconnu. Et lui, tout de suite, il a commencé à leur parler durement. Puis il les a accusés d'être des espions et d'avoir des mauvaises intentions. Et tout de suite, leur réaction était là, verset 21-24. Il nous dit, ils se dirent alors l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère. » Où est le rapport? Le rapport, tu arrives dans un pays étranger, on te dit à vous, monsieur, je ne crois pas que vous êtes en règle. Et tout d'un coup, ah, j'ai fait du tort à mon frère il y a 15 ans. Où est le rapport? Mais la conscience est là. Elle nous rappelle. Quand il y a quelque chose qui n'est pas réglé dans notre vie, eh bien, la moindre chose, ça fait penser. C'est comme le voleur, il est en train de se balader au marché, et tout d'un coup, il entend les sirènes de la police. Tout d'un coup, on vient me chercher. Mais bon, les sirènes, mais c'est le truc, ça déclenche. Hein, donc là, et pour eux, ils disent, ah voilà, nous récoltons ce que nous avons semé. On n'a pas, et ils se souviennent carrément, c'est comme si c'était hier. Hein, il dit, nous avons vu l'angoisse de son âme, et quand il nous demandait grâce, nous ne l'avons point écouté. Et donc là, ils ont ça sur leur conscience. Et ils vont l'avoir jusqu'au chapitre 45. Donc là, on ne va pas encore voir ça. Mais après, ils ont leur petit problème avec Joseph. Il est un peu dur avec eux. Il leur pose des questions. Il pose des questions précises. Il dit, vous avez pas d'autres frères? Pourquoi est-ce qu'ils soupçonnent? Ils sont déjà 10 là. Pourquoi poser s'ils ont un autre frère? Ils sont déjà 10. Mais lui, là, il sait de quoi il parle. Il dit, vous n'avez pas d'autre frère? Oui, on en a un qui n'est plus, puis après, on en a un petit qui est à la maison. Il dit, et un père, vous avez un père? Il est vivant encore? Et alors, c'est à quel rapport? Nous, on vient pour acheter du blé. Hein. Vous allez chez le boulanger, il dit, comment va votre père? Il ne connaît pas. Pourquoi il me demande comment va mon père? Si, lui, il savait. Hein? Donc, c'est vraiment, lui, il est en train d'essayer d'avoir des informations, il veut se rassurer par rapport à son père, mais eux, après, alors, il dit, on a gardé un ici, et puis vous rentrez, et vous ramènerez le petit frère, comme ça, je saurai que c'est la vérité. En fait, tout ce qu'il veut, c'est voir son petit frère. Mais, et alors, il dit, bon, je vous charge, je vous vends, et puis vous rentrez. Le soir, il s'arrête pour nourrir les animaux. Vous rendez compte le degré de sécheresse. Parce que quand on va nourrir, ils sont en route avec des ânes. Vous savez, des ânes, ça mange n'importe quoi. Hein, c'est comme les chèvres. Et bien, le soir, il faut qu'ils prennent la nourriture dans le sac de ceux qui viennent d'acheter pour nourrir et manger. C'est qu'il n'y a rien à brouter, hein, nulle part. C'est pour montrer le degré de sécheresse, et ça, c'est après une année seulement. Et l'un ouvre son sac pour donner à manger aux animaux et il trouve son argent. Qu'est-ce qu'il pense? Au lieu de dire, youhou, on a l'autre argent, on l'a eu pour gratuit. C'est ça qu'on penserait d'habitude. Ah, ils sont trompés, on a eu l'argent, ou bien ils sont gentils, ou on pensait quelque chose de bien. Mais quand on a quelque chose sur la conscience, ils disent au verset 28, ils se dirent l'un à l'autre en tremblant, qu'est-ce que Dieu nous a fait? Ah, en plus maintenant. Non, déjà, ça ne suffisait pas. Et maintenant, on va être pris pour des voleurs. Et il voit la punition de Dieu. Il voit que Dieu est en train d'intervenir. Vous savez, on ne pense pas à Dieu quand on est en train de faire les bêtises, mais après, on pense à lui. Et c'est jamais agréable. Hein. Mais ça, c'est la conscience. La conscience... c'est quelque chose que Dieu a mis en nous, il nous a créé avec la conscience. Donc c'est une petite loi garde-fou que Dieu met chez tout le monde, de manière naturelle. Maintenant, il est possible de faire taire sa conscience. Hein, c'est pour ça, la première fois que je vole, je tremble. Hein, et en fait, tout ce que je suis en train de prendre, un crayon. Mais je tremble comme si... mais si je continue à voler, je continue à voler. Et après, il y en a qui arrivent à voler, mais avec un sang-froid, c'est pas possible. Mais on arrive à maîtriser sa conscience, et puis on n'entend plus rien. Et, mais il y avait un temps où on en avait. Et dans Romains chapitre 1, il dit, même des gens qui vont dire, moi j'ai jamais entendu parler de l'évangile, ni rien du tout, moi, qu'est-ce que tu veux, tu vas me condamner. Il dit, et ta conscience, tu l'as suivie? C'était une loi basique que j'ai mise dans ton cœur. Est-ce que tu l'as écoutée? Il dit, donc vous êtes tous coupables. Il faut croire un Seigneur pour être sauvé, mais même si on n'a jamais entendu parler de Dieu, on est coupable, parce qu'on n'a même pas écouté les lois de morale qui existent dans chaque société. Hein? Chaque société, chaque culture a des règles de moralité. Et on ne les a pas suivies. On est coupable, même si on n'a pas entendu parler de l'Évangile. Donc, Romain dira, ils sont donc tous inexcusables. Hein? C'est pour ça qu'on parle de grâce. Hein? S'il n'y avait pas de culpabilité, on ne pourrait pas parler de grâce. Mais parce qu'il y a de la culpabilité, donc on peut parler de la grâce de Dieu. Hein? La grâce, ce n'est que pour des coupables, pas pour des innocents. Donc, ces frères continuent. Après, verset 35, ils arrivent à la maison. Hein, quand ils arrivent à la maison, ils déchargent leurs ânes. Et puis ils regardent, et chacun trouve son argent dans son sac. Donc il n'y a pas seulement un voleur, il y en a 10. Et ils ont peur. Ils eurent peur. Pourquoi ? Peur de quoi ? Mais surtout qu'ils sont à 200 km de Pharaon, hein, il n'a pas à avoir peur, il n'a pas le bras si long. Mais ils ont peur parce qu'ils savent qu'ils vont devoir retourner. Et vous savez, quand il y a la culpabilité, il y a la peur, il y a la crainte. Quand les choses sont réglées, il n'y a plus de crainte. C'est pour ça que j'ai mis ce verset, 1 Jean 4, 18. L'amour bannit la crainte, l'amour parfait bannit la crainte. Qui a l'amour parfait? C'est Jésus-Christ. Et lorsque, en tant qu'enfant de Dieu, je sais que j'ai péché, je chute, je glisse, je dérape, je tombe, mais je ne vis pas dans la crainte, dans la peur de Dieu, hein, crainte dans le sens de peur. Je ne suis pas terrifié par Dieu. Pourquoi? Parce que je sais qu'il m'aime. Et quand il m'aime, même quand il punit, ce n'est pas pareil. Hein? Il nous dit dans Hébreu, il nous dit, c'est la punition qui démontre qu'on est enfant. Je disais à mes enfants, hein, ça ne les consolait pas énormément, mais je disais, vous savez, je vous punis. C'est un privilège, parce que je ne fais pas ça avec tout le monde, je fais que ça avec à vous, parce que je vous aime. Les enfants du voisin, ils font pire que vous, je ne les touche pas. Et vous, je vous punis. C'est parce que je vous aime. Bon, il dit, mais bon, tu peux... eux, dans leur tête, hein, on était là. Hein, et si tu m'aimes vraiment, tu peux ne pas me punir, ça m'arrangerait. Mais en fait, on ne punit pas les autres. Hein, et si on punit, c'est parce qu'on sait que... bon, quand on perd le contrôle de soi, c'est autre chose. Hein, ça, c'est pas une punition. Ça, c'est la colère qui se défoule sur quelqu'un. Mais quand je punis avec le contrôle dans mes pensées... Là, parce que je pèse la punition en fonction de la faute et je la fais de manière à ce que le résultat soit positif. Hein? Pas pour écœurer, ni pour décourager, mais pour encourager. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous nous savons aimer de Dieu, même si je pêche, même si je tombe, mais je sais que mon Père m'aime, mon Père céleste m'aime, je peux retourner à lui et je dis, Seigneur, j'ai péché. Hein, comme le fils prodigue est retourné. Il est retourné parce qu'en fait, il savait que son Père le recevrait. Sinon, il n'aurait pas fait tout ce chemin de retour dans l'état où il était. Mais il y a quelque chose qui le disait, « Mon Père me recevra ». Et c'est en tant qu'enfant de Dieu, si nous sommes réellement enfants de Dieu, on sait que même si je tombe, je peux venir à Dieu et demander pardon, et il me reçoit. Mais ces frères-là, eux, ils n'avaient pas réglé la chose. Et avec la peur qu'ils ont, hein, la manière dont ils réagissent, chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, ils tremblent. Je pense qu'ils n'ont jamais réglé la chose avec Dieu, surtout pas avec leur père, ils ne lui ont rien dit, et ils n'ont pas réglé avec Dieu. Et donc ils ont toujours cette conscience, cette peur. Quand ça n'a pas été réglé, c'est comme David, quand il avait péché, il avait caché de tout le monde, je crois qu'on en a parlé la dernière fois, mais c'était un soulagement quand il a été découvert. Hein, et bon, maintenant que je suis grand et que mon père n'est plus là, je peux le dire, il y avait des fois où il m'attrapait, et puis c'était un soulagement qui m'est attrapé. Parce qu'au moins comme ça, j'ai plus peur, je tremble plus quand il passe. Mais c'est réglé. Et avec Dieu, eh bien, quand c'est réglé, la peur est bannie et je suis en paix et avec mon Seigneur. Donc, ces frères souffraient de leur conscience et du fait qu'ils n'avaient pas réglé, confessé leur péché et réglé ça avec Dieu et avec leur père. Et surtout pas avec Joseph. Ensuite, quelque part, Joseph, il a ses frères là. Il est content de les voir, mais il aimerait bien savoir dans quel état ils sont. S'ils sont toujours comme ils étaient, parce que c'est le dernier souvenir qu'il a, ou est-ce qu'il y a eu un changement de cœur. Donc, avant de se révéler, avant de faire ce qu'il aurait envie de faire, d'être bon, eh bien, il va les éprouver. Et il y aura plusieurs épreuves. Alors, déjà, là, au chapitre 43, donc on arrive dans le chapitre 43, et chapitre 43, je vous raconte un petit peu, ils sont partis, ça fait une année qu'ils sont partis, et là, ils ont plus rien à manger. Hein, tout ce qu'ils ont acheté, les provisions, ben, sont épuisées et il faut repartir. Et ils repartent, mais ils se souviennent que la dernière fois, ben, ils n'avaient pas payé. Et ils se disent, aïe, 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 comment on va faire? Ils disent, ouais, celui-là qui était là, c'est un gars intelligent, il va se souvenir. Dès qu'il va voir notre tête, parce qu'on est les seuls Hébreux qui viennent, il va nous reconnaître par notre habillement, il va nous reconnaître, et puis il va se souvenir qu'on a volé la dernière fois, on a pris l'argent. Ou bien il va nous accuser. Nous, on sait qu'on n'a pas pris, mais il va nous accuser d'avoir pris. Et alors, il rentre, et puis au verset 16, il nous dit que dès que Joseph, il les voit, parce qu'ils sont revenus avec Benjamin, on va revenir là-dessus, et tout de suite, il leur dit, bon, vous allez venir manger à la maison. Nous, déjà, la dernière fois, il nous mettait en prison. Il nous a même mis en prison pendant 3 jours. Et là, cette fois-ci, on arrive et il nous invite chez lui. Et tout de suite, eux, qu'est-ce qu'ils pensent? C'est un piège. Il nous emmène dans la maison et puis il va nous sauter dessus. Et puis il va nous dire, vous n'avez pas payé. Alors, eux, tout de suite... Ils n'attendent pas de voir Joseph, ils voient le supérieur, là, le serviteur, il le voit tout de suite, il dit, écoutez, il y a un an, on est venu, on a acheté, et puis on a payé, on a cru payer, et puis après, quand on est plus tard, on est rentré, on a trouvé l'argent dans le sac, et nous sommes revenus avec l'argent de la dernière fois, plus du double. On a ramené de l'argent et nous, on est honnête, on veut, ils sont là, ils essaient de démontrer qu'ils sont honnêtes. Et là, le responsable, l'intendant, il va leur dire, non, non, moi j'ai eu l'argent, hein, moi je sais pas, c'est peut-être Dieu qui a mis ça dans votre sac, moi j'ai reçu mon argent. En fait, il règle n'importe quoi. Mais heureusement qu'ils ont dit la vérité, parce que finalement, il était au courant de tout, lui. Vous savez, des fois, on a envie, quand on voit, on essaye, on se dit, bon, ben, je vais, peut-être, ils vont me faire payer, mais si je peux leur raconter autre chose, peut-être je ne vais pas payer cette fois-ci. Comme ça, c'était gratuit la dernière fois. Vous savez, des fois, on est tenté, hein, c'est fou ce qui passe par la tête. Comme disait, c'est Martin Luther qui a dit, je ne peux pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de ma tête, mais je peux les empêcher de faire des nids dans mes cheveux. Vous savez, vous ne contrôlez pas les pensées qui traversent l'esprit. Mais le truc, c'est qu'il ne faut pas les arrêter. Hein. Et puis après, parce que c'est quand on commence à réfléchir qu'on risque de faire quelque chose. Et eux, ils ont raconté les choses, ils ont dit, voilà, nous, on est rentrés, on a trouvé l'argent, tout ça. Et puis lui dit, n'en faites pas. Nous, on a eu notre argent, moi, je ne sais pas d'où ça vient, c'est peut-être Dieu qui vous l'a donné. Et eux, ils ne comprennent rien. Mais heureusement qu'ils ont été honnêtes. Et vous savez, dans des situations, même si on se trouve dans le tort, même si on se trouve dans des situations où ça va nous coûter, il vaut mieux dire la vérité. Il y a plus de chances que ça marche si on dit la vérité que si on raconte une histoire, hein, on fait des salades, on raconte des salades. Ça, c'est... Mais pourtant, hein, il y en a qui... Il n'y a pas de raison pour raconter n'importe quoi et ils racontent n'importe quoi. Il y en a qui ont tellement l'habitude de mentir, ils ne savent plus la vérité eux-mêmes. Mais là, donc les frères sont éprouvés. Bien sûr, cet intendant, je crois que moi, j'ai l'impression, en lisant l'histoire, plus je la relis, plus j'ai l'impression qu'ils sont en train de travailler ensemble. Là. L'intendant et Joseph. Et je crois que l'intendant, il est au courant de tout. Parce qu'il fait tout comme Joseph lui dit. Et certainement, l'intendant, il a été dire à Joseph, tu sais, ils sont venus, ils ont pas compris, ils ont demandé pardon, et ils avaient l'argent, ils ont dit tout ça. Joseph dit, bon, c'est bon. Mais c'est une... ils sont éprouvés. Ils sont en train de démontrer leur bonne foi. Hein? Et Joseph, il laisse faire, ça marche. Il dit, bon, ben, c'est un bon début déjà. Hein? Ils sont prêts à reconnaître la situation et ils racontent la vérité. Bon, ils n'ont jamais dit la vérité à leur père par rapport à Joseph, mais bon, ils sont là, ils sont un peu disposés à dire la vérité. Après, Joseph les invite dans la maison et puis il dit, vous allez prendre un repas avec moi. Vous imaginez des gens, c'est des bergers et c'est la famine. Imaginez ce qu'ils peuvent manger. C'était vraiment, ça ne devait pas être la grande cuisine. C'était le strict minimum et jamais à sa fin. Et on les place là, à une table de palais, où il y a de la nourriture comme ils n'en ont jamais vu. Et des quantités. Et ils sont là, ils sont invités à table. Oui. Imaginez, ils sont là et... Ce qu'on voit, on voit dans le verset 34-35, donc la fin du chapitre 43, il dit, verset 33, il dit, les frères de Joseph s'assirent en sa présence, le premier-né selon son droit d'aînesse et les plus jeunes selon son âge. Et ils se regardaient les uns les autres avec étonnement. Bon, on peut imaginer cette partie-là. Mais regardez, ils se mettent en rang, hein, le plus grand, et puis ils se mettent en... selon l'âge, ils s'ordonnent, c'est comme ça dans leur culture, on respecte les grands frères, et puis ils s'alignent tous, ils se mettent, et donc bien sûr, Benjamin, il est au bout de la table. Et bien sûr, eux, ils ont l'intention, ben, normalement, on les traite comme ça, hein. on sert d'abord l'aîné, et après, c'est lui qui se sert, et puis il passe, et comme ça, c'est... Mais vous savez... Là, vous savez comment Joseph va faire ? Parce que lui, c'est l'épreuve. Il va servir Benjamin 5 parts, 5 fois plus que les autres. Normalement, c'est lui au bout de la ligne. C'est lui qui prend les os. Joseph va venir, il va les faire servir 5 fois plus que les autres. Pourquoi est-ce que Joseph fait ça ?
Pour voir la réaction.
C'est voir comment ils vont prendre, s'ils vont encaisser ou pas. S'ils vont être jaloux. Parce que lui, il connaît, il a vécu ça. Et puis 5 fois plus. Qu'est-ce qu'il va faire 5 fois plus? Même s'il est gros, même s'il est... il va pas manger 5 fois ce que mange. Mais Joseph a tout mis là, mais vraiment pour à fond. Et puis il regarde comment eux regardent. Et il voit, il n'y a pas de réaction. On ne le traite pas comme avant. Peut-être lui, à la maison, quand il était, hein, on lui balançait une aile de poulet, alors que les autres, ils avaient les cuisses. Hein? Il avait l'habitude de ça. Il était comme ça quand moi, j'avais cet âge-là. Je vais voir si c'est toujours comme ça. Et c'est une épreuve. Il les teste. Apparemment, il nous dit, ça se termine bien. Il dit, ils burent et s'égayèrent avec lui. Donc, ça s'est bien passé. Il y a une bonne ambiance. Et certainement qu'eux, ils se sont racontés des choses en hébreu. Et puis, ils croyaient que personne ne comprenait. Hein. Comme certains jeunes qui parlent du taki-taki quand les autres ne sont pas là et on ne comprend pas. Et eux, ils sont en train de parler ensemble. Mais Joseph, lui, même s'il est assis à une autre table, il entend tout. Hein. Ils sont en train de dire, waouh, Dieu, on n'a jamais mangé ça. C'est du quoi, ça? Puis ils entendent entre eux, hein, qu'ils sont dans l'étonnement. Hein. Ils n'ont pas l'habitude de manger dans un palais. Mais ils sont là en train de parler. Et Joseph comprend. Je ne sais pas comment il a pu se retenir. Hein, parce que ça m'est arrivé, moi, d'être là avec des Maghrébins qui parlent en arabe. Et puis, ils ne se soupçonnent pas que je comprends. Et je suis là en train d'écouter, des fois c'est vraiment intéressant, et des fois ils se racontent des blagues, alors là il faut essayer de rester sans rire, alors qu'on comprend tout et on a envie d'exploser. J'imagine très bien la situation. Joseph est là, mais il les a provoqués sur ce qui concerne le droit d'aînesse, quelque chose que le père n'a pas respecté, et qu'il était très sensible. Il veut voir si leur cœur n'est pas changé. Ensuite, on arrive au chapitre 44. Et tout se passe bien. Ils chargent leurs animaux et ils sont prêts à partir de bon matin. Mais Joseph a dit à son intendant, il a dit, écoute, tu remettras l'argent dans chaque sac, mais tu prends le sac du petit. Le sac du petit, eh bien, tu mettras ma coupe. Apparemment, c'était quelque chose de précis. C'était ma coupe en argent, tu la mettras dans son sac. Tu la caches là-dedans, et puis voilà, tu les envoies. Alors, eux, ils ont chargé tout ça, ils sont prêts à partir de bon matin, ils prennent la route. Et puis, je ne sais pas, ils ont fait quelques heures. Et tout d'un coup, Joseph dit à son intendant, il dit, rattrape-les. Et dis-leur, pourquoi est-ce que vous avez pris la coupe de... Après, tout le bien qu'il vous a fait, et vous avez volé sa coupe. Et l'intendant, il part, et puis justement, il arrive, il les rattrape. Il dit, pourquoi vous avez... Il vous a fait du bien, il vous a tout... Et puis vous avez volé sa coupe. Puis non, mais non, on ne l'a pas volé, nous. Jamais on volerait. Il dit, si, vous avez volé. Il dit, mais oh, on n'a pas volé. Regarde pour toi-même. Et puis ils ont tous descendu les sacs, et puis ils ont dit, regarde... Et alors, lui, comme il sait ce qu'il a fait, il commence par le plus grand. Et puis, il vérifie chaque sac, c'est bon. Il arrive jusqu'au petit. Et il dit, et voilà. Il dit, non, mais écoute, c'est lui qui a volé, je le prends lui, j'en fais un esclave, et vous pouvez partir. Parce que je prends que le voleur, on ne va pas être injuste, hein, on prend que le voleur. C'était l'occasion pour eux de dire, Benjamin, qu'est-ce qu'il y avait à prendre la coupe de Joseph? Encore. Mais écoute, c'est toi qui as fait, tu restes, hein, on t'a attrapé. Et c'était l'occasion pour eux de le laisser, puis de continuer. Joseph savait qu'à son époque, on l'aurait laissé, lui. Donc il est en train de les éprouver, voir si eux, ils sont solidaires. S'ils vont vraiment, tous... Et eux, première chose, vous voyez, au verset 13, chapitre 44, verset 13, ils déchirèrent leurs vêtements, c'est pas possible. Il dit, non, vous pouvez partir, hein, moi je prends que celui-là. Bon, ça a arrangé Joseph d'avoir son petit frère avec lui, hein, en fait. Mais il dit, non, reviens. Et puis, alors je vous laisse lire la suite de l'histoire, mais ils reviennent et ils sont solidaires. Ils ne vont pas le laisser. Ils vont Alors ce sera un test, et en fait ils vont le réussir. Mais eux, ils ne savent pas tout cela. Ils ne savent pas qu'ils sont testés. Vous savez, dans notre vie chrétienne, des fois le Seigneur nous éprouve aussi. Et nous, on ne le sait pas. Il y a des choses qui nous arrivent, et ils sont là pour nous tester. Le Seigneur est en train de voir, et ça, pour lui, c'est pour voir où on en est. Pour nous, hein, si on se rend compte, ça nous permet de voir, d'apprécier la transformation qui se fait dans notre cœur. Il dit, ah, c'est vrai, hein, il y a quelques années, dans cette situation, ben, j'aurais réagi autrement. Eh bien, ça me permet de voir qu'il y a un travail qui se fait dans mon cœur. Hein? Mais, vous savez, quand on est enfant de Dieu, nous sommes éprouvés constamment. Et je pense que je ne vais pas vous faire confesser, et je ne vais pas confesser non plus, mais en regardant ma propre vie, je crois qu'on ne passe pas tout, on ne réussit pas tous les examens. Hein, il y en a qu'on rate. Parce qu'on n'est pas encore là. Hein, et la réalité, c'est ça. Mais, bon, mais le Seigneur le fait, c'est pour qu'on puisse apprécier. Et là, en regardant tout cela, nous pouvons apprécier quand même du progrès dans la vie de ses frères. Hein, ce qui est la bêtise, le crime qu'ils ont commis avec Joseph, eh ben là, ils ne sont pas prêts à le refaire. Ils ne sont pas prêts à recommencer. Il y a du changement dans leur cœur. Donc, on a vu avec leur conscience, et ils vivent avec leur conscience, et ils sont éprouvés, ils passent les épreuves. Et ensuite, voilà, on va constater un peu, voir le changement de cœur. Donc, on va revenir sur certains points. Dans le chapitre 42, hein, quand ils l'ont vendu et ils criaient tout ça, il n'y avait aucun sentiment. Joseph pouvait hurler, crier, pleurer, promettre, tout n'importe quoi, ils l'ont vendu. Aucun sentiment dans le cœur. Un cœur dur. Mais là, quand ils sont rentrés, chapitre 42, verset 37, quand ils sont rentrés, ils ont vu qu'ils avaient leur argent, et puis ils ont dit à Jacob, ils ont dit, tu sais, la prochaine fois qu'on rentre, il faut qu'on prenne Benjamin avec nous. Ah, il a dit non, jamais. J'en ai perdu un, je ne vais pas perdre le deuxième, jamais. Ruben, c'est le gars qui... Il dit, papa, écoute, envoie Benjamin avec nous. Si je ne le ramène pas, tu tues mes deux fils. Non, mais il dit n'importe quoi. C'est pas sérieux, ça. Qui est-ce qui va... Le grand-père, il va aller tuer ses deux petits-fils, rien que parce que toi, Benjamin, il n'est pas revenu. En fait, c'est des promesses qui ne valent rien du tout. C'est des promesses où tu promets ce que tu ne contrôles pas, tu promets ce que tu ne vas pas perdre. Hein, c'est comme si Francisco, il dit, écoute, si je ne t'amène pas ça, tu prends ma voiture. Et il n'a même pas une voiture à donner. C'est le genre de truc, il n'y a rien derrière. Il dit, tu tues mes deux fils. Le père, et bien sûr, ça n'a rien changé, parce que le père, il savait que c'est une bêtise. Il ne risquait rien. Mais bon, si vous regardez, vous lisez plus loin dans le chapitre... Judas, lui, il va dire autre chose. Judas, lui, il va parler sérieusement avec son père. Il dit, papa, écoute, faut que tu nous donnes Benjamin, parce qu'il nous a dit, vous ne revenez pas, je ne veux pas vous voir sans Benjamin. Il faut qu'on amène Benjamin. Il dit, ah non, il dit, écoute, comme tu veux, tu choisis. Soit on descend avec Benjamin et on ramène de la nourriture, et puis il ramène Siméon aussi, on pourra démontrer et montrer que... ou bien on reste là et on meurt tous. Voilà. Toi, nous, Benjamin et tout le monde. Voilà, tu choisis, tu fais ce que tu veux. Là, il est en train de parler, c'est la logique, ça pénètre. Hein, même s'il y a des sentiments, même s'il aime, mais bon, devant un argument pareil, qu'est-ce que tu vas dire? Hein, il dit, soit on meurt tous, soit on prend le risque de le perdre. Tu vois. Bon, après, Jacob, il va céder, il va dire, bon, ben, écoute, si je le perds, je le perds. Voilà, puis je serai malheureux, je vais mourir triste, mais voilà. Au moins, les autres seront sauvés. Mais c'est alors Mais vous savez ce qui arrive? Il y a quand même un petit problème là. Parce que, entre-temps, Siméon est en prison. Et il est en prison tant qu'on ne ramène pas Benjamin. Le père, il est un peu là, un peu égoïste. Il a quand même, lui, il a encore un problème. Parce qu'il dit, non, non, moi, Benjamin, je ne le laisse pas partir. Je ne le laisse pas partir. Tu ne le laisses pas partir, mais Siméon, il est en prison. Nous, on pourrait descendre avec Benjamin. Nous, on sait qu'on dit la vérité. Et l'homme là-bas, c'est qu'on peut faire confiance. Si on ramène Benjamin, il va nous libérer Siméon. Eux, ils le savent. Mais Jacob, il refuse. Il dit, non, non, partez pas, prenez pas, débrouillez-vous. Après, il commence à avoir faim, il n'y a plus rien à manger. Alors, au début du chapitre 43, il dit, écoute, qu'est-ce que vous faites là? Allez chercher. Il dit, on ne peut pas partir sans Benjamin. Mais la question, c'est que, et même il dira à son père, il a dit, on aurait pu descendre et revenir deux fois si tu avais laissé partir Benjamin. Et le résultat, c'est qu'il faut qu'il parte quand même. Tu n'as rien gagné. Mais entre-temps, Siméon est resté en prison une année. Vous savez, des fois, on peut être égoïste, où on cherche notre intérêt, ce que je veux, et je fais souffrir plein d'autres. Hein, c'est le problème de l'égoïsme. Et parce que je veux ce que je veux, j'insiste, non, je ne prends rien d'autre, non, je ne veux pas, je veux ça. Sinon, rien du tout, je boude, je ferme la porte de ma chambre. Voilà. Et tout le monde, on fait souffrir plein de monde. Et puis, à la fin, ce sera pareil, il faudrait y aller. Hein. Et donc, Jacob, finalement, il doit céder. Mais les frères sont là, ils disent, non, il faut qu'on descende, on descende avec Benjamin, et on va prendre soin d'eux. Judas, il s'engage, il dit, moi, je m'engage, je t'assure que on le ramène, et lui, il a plus confiance dans ce gouverneur en Égypte, parce qu'il le trouve dur, mais droit. Il a ce sentiment-là. Et quand il voit ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, quand ils sont à table et puis Benjamin est servi cinq fois, ben on voit qu'ils ne sont plus jaloux, la jalousie n'est plus là dans leur cœur, hein, ils sont plus jaloux de Benjamin. Pourquoi? Pourtant ils savent qu'il est aimé plus que eux par le père, mais ils ne sont pas jaloux, et il y a eu un changement de cœur à ce niveau là et Judas, il dit même, il va proposer, parce que ce qui va arriver, c'est qu'ils vont, descendre là-bas, ils vont partir. Puis comme je vous disais tout à l'heure, ils disent, bon, Benjamin, il a pris la coupe, on le ramène. Tous les frères rentrent. Et puis, si vous lisez l'histoire, chapitre 44, la fin du chapitre 44, eh bien, Judas va dire, mon Seigneur, écoute. Et puis, il raconte toute l'histoire, comment ça s'est passé. Et il dit, notre père, si on ne ramène pas Benjamin, eh bien, il va mourir de tristesse. Et moi, je ne peux pas le voir mourir de tristesse. Et dans cet état-là, je ne veux pas le voir de cette manière-là. Il dit, écoute, prenez-moi, mettez-moi en prison, gardez-moi comme esclave, mais laissez partir Benjamin. Et Judas va dire ça. Mais ce sera la preuve d'un changement de cœur. Et donc, là, Joseph va entendre ça. Il va voir qu'ils sont prêts à se sacrifier pour sauver Benjamin. Il va prendre note du changement de cœur et de l'évolution. Et donc, la prochaine fois, hein, dans 15 jours, quand on fera l'étude, on passera au chapitre 45. Et bien, c'est là que Joseph va se dévoiler. Il va dire qui il est. Mais il a fait l'épreuve. Il les a éprouvés, le changement de cœur. Vous savez, dans la vie, on veut faire confiance à tout le monde, mais une fois que quelqu'un nous a déçus, hein, on a fait confiance à quelqu'un, et puis il nous a déçus, il a abusé de notre confiance, hein, c'est même abus de confiance, hein, c'est un crime. Et quand on a abusé la confiance de quelqu'un, Après, il faut démontrer. Hein. La première fois, la confiance a été donnée gratuitement. Là, vous rencontrez quelqu'un, vous lui faites confiance. Jusqu'à la preuve du contraire. Mais une fois qu'il vous a déçu, alors là, il faut qu'il se mette sur la tête, il faut faire toutes sortes de choses pour essayer de démontrer qu'il est digne de confiance maintenant. Hein. Si on a déçu quelqu'un une fois, eh ben, il faut leur accorder le privilège de pouvoir nous tester pour s'assurer qu'on est maintenant digne de confiance. Hein, ça arrive dans des couples, ça arrive chez des amis, ça arrive avec l'employeur, ça arrive dans la société, ça arrive partout. C'est humain. La première fois, la confiance est gratuite. Une fois qu'on a déçu, eh ben, après, il faut remonter la pente. Et donc, la meilleure chose, c'est ne pas décevoir. Hein, si quelqu'un nous fait confiance, c'est d'être à la hauteur de leur confiance, c'est de confirmer cette confiance, leur démontrer qu'ils avaient raison de nous faire confiance. Et vous savez, quand on a la confiance en quelqu'un, la vie est beaucoup plus facile que quand on n'a pas la confiance. Hein. Quand on a affaire avec des jeunes délinquants, elle dit, mais je te promets. Qu'est-ce que tu me promets? C'est pas si sûr quoi. Et puis en région parisienne, il jurait, et je te jure par le courant de la Mecque. Oui, mais ça ne garantit plus rien. Oui, vous savez, les gens, ils jurent par la vie de leur mère, ils jurent par la tête de leur grand-père, ils jurent par la Bible, ils jurent tout ça. Mais si tu sens le besoin de jurer, c'est que certainement tu es un menteur. Hein? Parce qu'une fois qu'on a la confiance, on n'a pas besoin de jurer. Il n'y a que les menteurs qui jurent. Et surtout s'il jure beaucoup. Hein? Alors c'est que lui, il a du doute sur lui-même. Je sais pas, moi je ne te connais pas, mais bon, toi, la scène que tu me fais là, moi je suis sûr que je ne vais pas faire confiance. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai quelque chose qui me dit que... Ah oui, monsieur, vous pouvez faire confiance, voilà, je vous promets. Non, non. Mais vous savez, des fois, il y a des gens qui font ça avec Dieu aussi. Hein? Il dit, Dieu, tu peux me faire confiance? Oui, mais moi je sais tout et je sais, je connais tes performances jusque-là. Hein. Tu as déçu la confiance d'un tel, pourquoi est-ce que moi je dois te faire confiance? Hein? Ou c'est un trait de caractère la confiance. C'est une qualité. Et où on est digne de confiance ou on ne l'est pas, c'est tout. Et si on est digne de confiance, on est digne de confiance à tous les niveaux. Hein? On n'est pas fidèle avec celui-là et pas fidèle avec l'autre. Celui qui est infidèle d'un côté, il va être infidèle de l'autre. Hein, c'est ça la vie. Voilà. Sinon, maintenant, je vais vous montrer un petit clip. C'est pas tout à fait...